C'est bon. Et l'église de notre église, je ne sais pas si elle est connectée. Je leur avais dit à peu près à 11h40. Sont là. Bravo. Salut, salut la gang à Sept-Îles. Et on est content d'être ensemble. Et vous avez manqué une louange très, très riche. Je sais que sur Zoom, le son de la louange, c'est pas vraiment. Ça dit pas ce que les voix donnent et les instruments. J'ai regardé une des réunions ici et j'ai écouté la louange, votre louange, et je me suis dit, oh, le son est pas fameux. Mais là, maintenant que je suis en personne puis j'ai écouté la louange, c'était beau. Karine, elle a pleuré. Et en même temps, on est sur Facebook comme à tous les dimanches parce que beaucoup de gens écoutent la prédication de l'église de Ouachat. Et Facebook sont là. Et Haïti sont dans ma poche ici. Avec mon vieux téléphone. Et c'est vraiment un privilège d'être ici, Brigitte, ma femme, et Marie-Lou, ma fille, et son petit gars, Albert, qui était le nom de mon père, Albert. Et Marie-Lou, elle a terminé une maîtrise. Le sujet de sa maîtrise, c'était le mouvement de l'Évangile chez les femmes Innu. C'est à peu près ce que tu viens de dire. Donc, les femmes Innu à Sept-Îles, le mouvement évangélique dans l'Église, où est-ce qu'on est? Et elle a terminé sa maîtrise et je vais mettre sur ma lettre de nouvelles le lien, si vous voulez aller lire ce qu'elle a écrit dans sa maîtrise, ben là, vous allez avoir le lien. Donc, je vais prier. Merci Seigneur du grand privilège d'être ici, le grand plaisir d'être ici et en même temps être avec mes frères et sœurs à Ouachat. Et en même temps, être avec mes frères et sœurs en Haïti. Et Seigneur, merci pour ce grand privilège que tu nous donnes d'être ensemble, malgré la distance. Et Seigneur, je te prie pour que tu nous enseignes ce matin, que tu nous parles, que tu touches nos cœurs à chacun. Et Seigneur, merci pour ta parole qui nous dirige. Merci de me donner le privilège de parler de ta parole. Ma voix n'est rien, mais ta voix est grande. Merci Seigneur pour ce moment privilégié. En ton nom qu'on te prie. Amen. Des nouvelles de la famille? OK. Bien, on a trois filles mariées, que j'ai eu le privilège d'être le célébrant aux trois mariages. Et on a notre garçon qui n'est pas marié, mais c'est un Chinois. Il parle chinois, il étudie en chinois. Évidemment, il n'est pas à Pékin maintenant parce que les frontières sont fermées dues au virus, au COVID. Mais il étudie à distance, il a hâte de retourner en Chine pour être avec les siens. C'est un Chinois de cœur, notre garçon. Et on a des petits-enfants. On a sept petits-enfants et peut-être un huitième. Ça se peut. Il y en a un qui est là, il y a un de nos petits-enfants qui est là. Quand on vient dans la région, bien évidemment, on vient voir nos petits-enfants, nos enfants. Et là, on vient vous voir. Et on veut vous remercier, Brigitte et moi, de votre soutien financier et votre soutien spirituel. Je sais que vous priez pour nous. C'est vraiment apprécié. Et comme j'ai mentionné dans une lettre, je vous demande de diminuer de 20% le soutien financier que vous nous donnez. C'est rare que quelqu'un vous dise un message de même. Mais oui, parce que Dieu est bon envers nous, puis Dieu nous bénit financièrement. Et diriger ce 20%-là que vous nous enlevez, dirigez-le vers quelqu'un d'autre, un autre couple qui peut-être en aurait besoin. Et ça va être correct. Et je vous remercie aussi d'aimer la nation Innu. Vous êtes vraiment un bon support pour nous, même s'ils ne vous ont jamais vu. Mais en tout cas, merci d'aimer la nation Innu. Quelques mots sur ma santé. J'ai été opéré le 27 juillet. On m'a coupé un pied de colon et de rectum. J'avais un cancer. Le 2 septembre, j'avais rendez-vous à Québec pour mon médecin et j'avais planifié de venir ici le 5 septembre. Je me pétais les bretelles de ma récupération qui était quand même bonne, mais la biologie m'a repris ses forces et j'ai été vraiment faible dans ma santé. Et donc, j'ai dû canceller. Mais là, on est là, je suis vraiment... J'ai bien récupéré depuis ce moment-là. Et on a eu, dans le mois d'octobre, à Ouachat, dans l'église, on a eu une funéraille, un chrétien de longue date qui est décédé après des années de souffrance dans la maladie. Et on a fait une cérémonie funéraire. Il y avait 75 personnes et je vous donnerai le lien dans ma prochaine lettre aussi si vous voulez aller voir comment s'est passé le funérail. Et aussi, j'ai baptisé un couple, Claude et Yoko. J'ai baptisé je ne me rappelle plus la date, deux ou trois semaines. Et c'était vraiment un plaisir de baptiser Yoko dans le baptistère qui était en avant. Puis Claude voulait absolument être baptisé dans la rivière Mishtashibu, la rivière moisie, rivière millénaire chez les Innus, où ce que les Innus montaient à chaque année et descendaient chaque printemps. Et il voulait absolument être baptisé là. Bien, let's go. Mais au mois d'octobre, il fait frette dans la rivière à cette île. J'avais mis mes grandes bottes. Moi, j'étais pas mal safe. Mais lui... Ah oui, un vrai Innu dans l'eau. Et on a eu le plaisir de le baptiser là. C'était vraiment plaisant. Jeudi passé, j'avais un rendez-vous aussi chez le médecin. Et il va m'opérer pour m'enlever ce que vous ne voyez pas. M'enlever le sac. Il va m'enlever ça, puis il va me reconnecter l'intestin. Et là, j'espère que tout va aller bien pour les numéros 2. Amen! Et en tout cas, et là, deux semaines, j'ai eu comme mon intestin bouché parce que j'avais mangé des brocolis crus. Puis moi qui aime les légumes crus, je me suis laissé un petit peu trop aller. Et là, mon intestin a bouché. J'ai été à l'urgence toute la journée pour finalement, dans la soirée, mon intestin a débouché. Et là, ils m'ont fait passer un scan pour checker si mes intestins n'avaient pas souffert de la congestion du trafic. Mais non, mes intestins ont bien réagi à cette journée-là. Mais ils ont vérifié, ils ont checké le scan de cette journée-là avec le scan d'avant mon opération, puis ils ont dit que mes ganglions autour des intestins avaient grossi, que ça pourrait être dangereux, que ça pourrait être un cancer. Et en tout cas... Ça va. Le petit écureuil, il tourne. Mais mon chirurgien me dit que c'est probablement correct, là, probablement c'est pas ça. Mais quand même, j'ai pas eu la réponse définitive. Mais est-ce que j'ai un autre cancer? C'est possible. Que sera demain? C'est le titre de mon message. Que sera demain? J'ai mon ami, mon frère dans la foi, Guy Gravel, qui est décédé. Ça fait deux semaines peut-être. Il avait 60 ans, un cancer. Et il a prêché à 2 semaines avant, je pense, à l'Action de grâce, il a prêché dans une église. 2 semaines après, il est avec son sauveur. Ça fait que sera demain. Bon, je suis peut-être pas très encourageant ce matin. Mais quand même, c'est la réalité. Et c'est la réalité biblique. On va mourir. On veut vivre, évidemment, on veut vivre. Mais on va mourir. Mais Brigitte et moi, on veut servir la communauté Innu encore longtemps. Longtemps, longtemps. Tant que Dieu va nous donner le go ou notre santé va le permettre. Mais il faut quand même prévoir qu'on s'achemine vers la vieillesse extrême. Et bientôt, ça va nous rattraper. Les choses biologiques de nos corps, ça va nous rattraper. Que sera demain? Je connais plusieurs chrétiens dont le conjoint ou la conjointe sont décédés. Même des enfants de couples chrétiens sont décédés, des jeunes enfants. Vous avez probablement dans vos familles des gens qui sont décédés, que vous avez bien aimés. Et ça nous attriste. Ça nous attriste tout ça. Mais c'est la grande vérité, c'est qu'on va mourir. Luc de la Rochelière a écrit un chant. Un beau chant. Même si ce gars-là n'est pas chrétien, mais ce chant-là est vraiment biblique sans même qu'il le sache. Il a écrit dans son chant, « On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Pour ceux qui ont frôlé la mort, moi, j'ai demandé à mon chirurgien, dans ma première visite au mois de septembre, j'ai demandé si je n'avais pas eu connaissance que j'avais quelque chose d'un trip. Je n'avais aucun symptôme. Je ne savais pas. Puis mon médecin de famille m'a fait passer des tests. Puis là, c'est de même que j'ai appris que j'avais quelque chose qui n'était pas normal. Mais j'ai dit au médecin, si je n'avais pas fait des démarches, j'avais continué à vivre sans même me soucier. J'ai demandé combien de temps qu'il me restait à vivre. Il me dit, 1 an et demi. Il était 5:00 pour moi. La vie est si fragile. Un autre beau chant, pas chrétien, que je vais vous lire. Je vais tenter de le chanter, mais excusez mes fausses notes. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite n'a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et, mais surtout pouvoir chanter que c'est beau la vie. Je m'excuse. Oui, c'est beau la vie. C'est très beau la vie. Malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré les deuils. Un autre beau chant, c'est mon dernier. Qui connaît Louis Armstrong? un chanteur américain, un noir. Il jouait de la trompette super bien. Il y a un chant qui a si bien chanté. Et bon, je me risque en anglais. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think in myself, what a wonderful world. C'est beau ce chant-là. Oh, que c'est beau. C'est pas chrétien, mais c'est tellement beau. Le ciel bleu, les nuages, les arbres, la lune, les étoiles, les aurores boréales chez nous. Le vent dans les feuilles, le vent dans ma face, les enfants, les petits-enfants et plein d'autres affaires. Que c'est beau la vie. What a wonderful world. Toutes ces belles choses que Dieu a créées nous parlent de la grandeur de Dieu. Cette belle création de Dieu, c'est un aperçu. C'est seulement qu'un aperçu. Tout ce qu'on voit, les belles choses, c'est un aperçu infiniment petit de ce qui est, de ce que Dieu va créer, de ce que Dieu a déjà créé pour notre éternité. Jésus a dit, je vais vous préparer une place, donc je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, dans cette belle place merveilleuse. Dieu va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, avec une demeure extraordinaire pour chacun de nous, qu'on ne peut même pas s'imaginer la beauté de notre demeure qui s'en vient pour nous. Les merveilles de la création de Dieu et les bénédictions ici-bas sont rien comparées à ce qui nous attend dans l'éternité. Tout ça, ce n'est qu'un infime aperçu. Le ciel, les nuages, les feuilles, les insectes, les animaux. C'est tellement beau, mais c'est rien à comparer de ce qui s'en vient. Un beau film, un dessin animé pour les enfants que j'ai bien aimé. Vous l'avez peut-être déjà vu, Fourmise. Qui a vu ce film-là? C'est des fourmis dans une fourmilière, tout son dessin animé. Puis là, il y a une fourmi qui est ouvrière là-dedans, puis là, elle n'a jamais sorti du trou, mais elle a entendu dire qu'en haut, il y a quelque chose de merveilleux. Il y a un parc. Il y a un parc en haut avec du gazon, il y a un ciel bleu, il y a un abreuvoir, il y a des enfants, il y a un ballon, etc. Cette fourmi-là a entendu dire, « Hey, elle a passé sa vie dans le trou. » Mais c'est tellement à l'image biblique, ce film-là. C'est pas un film chrétien. Mais c'est tellement un bon film à faire la relation entre nous et l'éternité. Dans Romains chapitre 1, vous connaissez ce verset-là. Je n'ai pas de diapo. Je vous lis les versets, si vous voulez les lire dans vos Bibles en même temps. Romains 1, 20, c'est écrit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Évidemment, on regarde la nature, l'ouvrage de Dieu, et ça nous donne une petite idée. Comment ça peut être grand dans l'au-delà? La nature, tellement complexe et variée, nous enseigne l'existence d'un Dieu créateur et puissant. Job a écrit, « Mais interroge donc les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te le révéleront. Médite au sujet de la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait tout cela? » Évidemment, mais il y a tant de monde qui disent non. Comment ils font pour ne pas s'ouvrir les yeux puis de comprendre que tout ça, ça ne peut pas être le hasard? à 15 minutes de chez nous, j'emmène ma visite là quand il y a du monde. Quand il n'y a pas de nuages, puis quand il n'y a pas de pleine lune, parce que quand il y a une pleine lune, on ne voit rien dans le ciel. Mais j'emmène ma visite là, c'est une montagne à 15 minutes de chez nous. Et là, il y a des merveilles dans le ciel. La Voie lactée, vraiment brillante. Des centaines de satellites qui passent. Mais ça, ce n'est pas la création de Dieu. Des aurores boréales. La dernière fois, Yves Descory est venu avec Louise. Je l'emmène là. Elle m'a amené les aurores boréales. Waouh, c'était tellement beau. À 15 minutes de chez nous. C'est écrit dans les psaumes, psaume 19:2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Isaïe 40, verset 26. Lève les yeux en haut et regardez. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? On connaît la réponse. Pour nous, chrétiens, il y a un danger à tout ça. C'est bizarre, hein? Il y a un danger à ça. C'est de focusser seulement sur la création merveilleuse de Dieu ici-bas et d'oublier ce qui est réservé dans les cieux. Parce que ça, on ne l'a jamais vu. Un endroit infiniment plus merveilleux que ce qu'on voit présentement. Un endroit tellement merveilleux que c'est même impossible d'imaginer ce qu'il y a dans l'éternité pour nous. Rappelez-vous, fourmise, la fourmi dans son trou, qui ne voulait pas se contenter de son trou, elle faisait tout pour sortir, pour aller voir ce qu'on lui avait dit, que dehors, il y a quelque chose de merveilleux, bien mieux que dans le trou. Oui, c'est beau la vie. What a wonderful world, ici-bas. Mais notre monde qu'on considère très beau, n'est qu'une fourmilière comparée au monde d'en haut. Si on peut sortir de notre trou un jour, si on peut mourir. Et quand on arrive à 65 ans, comme moi, et qu'on t'annonce que tu as un cancer, avec une opération pour enlever ton cancer, quand j'étais dans la salle d'attente sur une civière, avec d'autres patients sur leur civière, puis que là, de temps en temps, ils venaient en chercher un pour l'opération, puis là, moi, je suis là, que sais-je fais ici? Voyons donc, pas naturel d'être ici. Je vais aller me faire ouvrir le ventre. On va m'enlever un morceau. Et qu'il y a une possibilité d'un autre cancer en plus. On pense un peu plus à cette place que Jésus est en train de préparer. Ecclésiaste. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Et il n'a aucune autorité sur le jour de sa mort. Quelqu'un ici peut mourir après-midi. Je m'excuse de vous annoncer une bien mauvaise nouvelle. Ça peut être moi. Ça peut être nous. Accident de char. Crise cardiaque. On n'est pas maître du jour de notre mort. Dieu est celui qui décide le moment de notre mort. Et ça peut peut-être, dans certaines circonstances, nous sembler injuste, surtout quand un enfant meurt. Là, on se dit, comment ça? Pourquoi? Ou des fois, quelqu'un qui meurt trop tard. Je pense à mon frère qui est décédé, Jules, qui a été 10 ans dialysé, c'est-à-dire 3 fois par semaine, il allait à l'hôpital pendant 4 heures à chaque fois, faire changer son sang dans la machine. 3 fois par semaine, 4 heures à chaque fois, pendant 10 ans, en chaise roulante. Pourquoi, Seigneur, tu n'es pas venu le chercher plus tôt? On se pose des questions de même. Mais un jour, Dieu, en haut, il va tout nous expliquer les pourquoi. Qui nous semble aujourd'hui insensé. Et comme on le chante souvent dans nos temps de louange, vous l'avez déjà peut-être sûrement chanté ce chant-là, dans Job, il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Hein? » On chante ce chant-là. Samedi prochain, je vais avoir 65 ans. Quand j'ai marié la belle Brigitte en 1978, j'avais 21 ans, Brigitte avait 22 ans. Mon père avait 56 ans. Puis je me disais, il est donc vieux. Et qui est vieux, 56 ans? Puis là, je me disais, oh, ça va me prendre bien du temps avant de me rendre à 56 ans. Ça va prendre un temps infini. Et je me rappelle, quand j'étais adolescent, j'avais calculé en l'an 2000 quel âge je vais avoir. J'étais adolescent. J'ai calculé, en l'an 2000, je vais avoir 44 ans. J'en ai 65. Et que ça passe vite. Que sera demain? Psaume 90, 10. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et si nous sommes vigoureux à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Il y a du monde ici, là, il y a 100 ans qui chantait, qui priait. Il y avait un pasteur qui prêchait. Ils sont où, eux autres? Au cimetière, au ciel. Ça va vite. Ça va très vite. Il ne m'en reste plus longtemps à vivre dans la réalité. Il vous en reste plus longtemps à vivre. Dans peu de temps, on va être mort. Dans très peu de temps. J'ai une corde. Ce n'est pas mon idée, j'ai piqué l'idée d'un chrétien qui s'appelle Francis Chang. Peut-être que vous avez déjà vu cette petite leçon de choses-là, mais je vais vous en parler. J'ai une corde, et cette corde-là, ça représente l'éternité. Parce, imaginons que cette corde-là, ça en va jusque dans le fond de l'éternité, dans le fond de l'univers. Ça n'a pas de fin, l'univers, je pense. Mais ma corde, elle s'en va jusque là-bas. Elle est longue. Mais ça, c'est notre vie éternelle, la corde. Et ce bout-là, c'est notre vie sur Terre. On vient au monde. Enfant, adolescent, adulte, dans la vingtaine, la quarantaine, la soixantaine, puis là, ce petit bout-là, c'est notre retraite. Wow! Hey, je vais travailler fort. Je vais aller à l'école, à l'université, puis là, je vais me trouver un job payant, puis là, je vais élever mes enfants. Puis après ça, ben, je vais me ramasser un fonds de pension pour avoir ce petit bout-là merveilleux. Mais oui, mais ça, on y pense-tu? Évidemment, ce petit bout-là, il y a des voyages, il y a des croisières. C'est pas mal, c'est pas péché. C'est correct. Mais attention, au bout là, de la couleur noire ou rouge, ça dépend de la version que vous avez écoutée, là, ça continue. Ça continue. Ça n'a pas de fin. Il y a des milliards d'années qui suivent. Des milliards d'années. Et ce bout-là fait partie des milliards d'années. C'est une seule corde. Attention de ne focusser que sur cette partie-là. Parce que en haut, il y a un monde tellement merveilleux. Des millions de fois plus merveilleux que ce qu'on peut vivre ici, de choses merveilleuses. Pourquoi vouloir une vie dans cette couleur-là, une vie confortable, divertissante, plaisante? Mais ce n'est pas vraiment important. Ce n'est pas vraiment important ici qu'on ait une vie plaisante et divertissante. Bien, si on peut l'avoir, correct. Encore là, ce n'est pas péché. Mais attention, ça continue. Paul, il dit dans premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose, toute espèce d'abstinence. Eux, pour recevoir une couronne corruptible. Nous, pour une couronne incorruptible. Donc, moi, je cours, non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. » L'apôtre Paul vivait ce bout-là intensément, spirituellement, très intensément. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 12, encore l'apôtre Paul, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course. » Afin de la saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'avait dans les yeux. La partie blanche. Oui, il vivait là-dedans. Il y avait des gens qui connaissaient, qui aimaient, mais il focusait sur ce qui s'en vient, la partie la plus intéressante. Que sera demain? Que sera demain? Nous devons donc nous consacrer pleinement au Seigneur pendant le temps qu'il nous reste ici-bas. Encore l'apôtre Paul dit aux chrétiens de son époque, aux Éphésiens 5, 15, « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ça prend la sagesse de Dieu pour veiller avec soin sur notre conduite dans ce monde. Tellement matérialiste et individualiste. C'est tellement facile d'embarquer là-dedans. Trop facile. C'est pour ça que ça prend la sagesse de Dieu. Parce que si la sagesse de Dieu n'est pas dans nous, l'attrait de ce monde est tellement fort. Rachetez le temps, nous dit Paul dans Éphésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Notre temps doit être pour le Seigneur. Rachetez le temps pour le Seigneur. Surtout quand on considère que notre passage sur Terre, c'est éphémère. C'est un coup de vent. Notre passage sur Terre. Car les jours sont mauvais, dans le sens que le péché règne avec puissance autour de nous. Les gens ne se tournent plus vers Dieu. La société voit le christianisme comme une barrière au progrès, comme des nuisances pour eux, pour la société. C'est de même que le christianisme est vu. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse. » Encore ça, le concept de la sagesse dans nos vies qui vient de Dieu. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, les non-chrétiens. » Rachetez le temps, encore le concept de racheter le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Ceux du dehors, les non-chrétiens, se conduire avec sagesse envers eux. Ce qui veut dire, c'est quoi ça veut dire, se conduire avec sagesse? Avec les amis à l'école, avec les chums d'ouvrage, avec les gens de la parenté, qui ne sont pas chrétiens, bien, il faut faire attention de ne pas glisser dans ce monde-là qui est tellement confortable, attrayant. C'est pour ça que ça prend de la sagesse de Dieu, pour ne pas glisser là-dedans. Ou bien donc, faire attention de ne pas être vu comme la perfection sur terre. Je suis un chrétien. Moi, je suis pur. Parfois, on peut donner ce message-là à ceux qui nous entourent. Oui, on est pur. Jésus a lavé nos péchés. Mais attention, il ne faut pas paraître comme ça face à ceux qui ne sont pas chrétiens. Il ne faut pas leur donner l'impression qu'on se prétend supérieur. On ne doit pas laisser les non-chrétiens influencer notre vie. Ça, je le dis souvent à notre Église. Il ne faut pas laisser les inconvertis influencer notre vie. Il faut nous influencer, les inconvertis, dans leur vie. Et ça demande de la sagesse. Notre parole doit toujours être accompagnée de grâce. C'est quoi la grâce? C'est qu'on était des perdus pour l'éternité et Dieu a eu pitié de nous. Il a envoyé son Fils mourir à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On y a cru. Bien, on y a cru. Pourquoi on y a cru? Parce qu'il nous a fait croire. Ce n'est pas nous autres qui avons cru en réalité. Il nous a donné la réflexion de croire à ce que Jésus a fait pour nos péchés. Donc, c'est ça la grâce. La grâce, c'est un cadeau qu'on reçoit, mais qu'on ne mérite pas. Dans l'Antiquité, il y avait des rois dans leur palais. À leurs anniversaires, ils descendaient dans le donjon. Ils disaient au geôlier, « Ouvre-moi telle cellule. » Le gars, c'était une crapule, c'est un meurtrier. Le roi, il ne le connaît pas. Et le roi disait, « Tu es gracié, dors! » On ne peut plus rien te condamner. T'es gracié. C'est ça la grâce. C'est nous. Dans notre condition qu'on était perdus. Impossible de sortir du cachot. Dieu est descendu. Il nous a dit, je te fais grâce. Bien, notre parole doit toujours être accompagnée de grâce. En réalisant ce que Dieu a fait pour nous et en réalisant ce que Dieu peut faire pour les autres, il peut faire la même chose. Personne ne mérite quoi que ce soit. Mais Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Donc, dans nos rapports avec les non-chrétiens, notre parole doit toujours être accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. C'est-à-dire notre témoignage, notre vie de tous les jours, avec notre voisin à la maison, ou en appartement avec nos voisins, à l'ouvrage, à l'école, quand on a des réunions de famille, à Noël, etc., quand on visite nos familles, on est chrétien et plusieurs ne le sont pas. Il faut quand même être assaisonné de sel. Évidemment, ça prend la sagesse de Dieu, tout ça. Parce qu'on peut tomber dans le légaliste, puis on peut tomber dans « Moi, je suis pur et vous êtes tous des perdus. » Oh, ça peut être affreux. Ça prend de la sagesse de Dieu. Et Dieu va nous guider, savoir quoi dire aux gens, quoi répondre. Je vous ai parlé au début de la fourmi, fourmise, qui avait entendu dire qu'en haut, il y a quelque chose de merveilleux, en dehors du trou. Et je vous ai aussi parlé de la corde qui est longue à l'infini, avec un petit bout, pas long. Et est-ce que notre vie est présente, est-ce que notre vie présente est axée sur l'éternité? Nous, les chrétiens. Ou seulement sur notre vie ici-bas? C'est un piège. C'est très facile axer notre vie de chrétien juste ici-bas. On rentre ici le dimanche matin, on sort le dimanche midi, et là, tout le restant de la semaine, pas grand-chose. Autant dans nos vies de tous les jours que dans nos pensées. Hi, c'est dangereux. C'est très dangereux. Les jeunes ados ici, faites attention de ne pas fixer que la vie présente. Oui, vous avez une vie de jeunes gens à vivre, à l'école et tout ça, mais il faut faire bien attention pour ne pas fixer notre regard seulement sur ça. Les jeunes adultes, les jeunes couples qu'on a déjà été, faites aussi attention à ne pas fixer votre regard que sur le moment présent. Évidemment, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de notre travail, il faut s'occuper de payer le char, payer la maison. Vous êtes dedans, vraiment dedans. Nous autres, on n'est plus là-dedans. La maison est payée, le char est payé. Je veux dire, il n'y a plus grand-chose qui nous énerve à notre âge. Je vais recevoir la pension de vieillesse. Elle a la pension de vieillesse. J'ai la CCQ, la pension de la construction. J'ai les rentes du Québec. Mais vous autres, vous êtes dedans, les jeunes adultes. Vous êtes dans la soupe. Mais faites attention quand même à ne pas fixer vos regards que là-dessus. C'est dangereux. Et nous, les retraités, on est bien assis sur notre steak, tout est payé, de temps en temps, une petite croisière. C'est correct. C'est bien. Un petit voyage en Europe, c'est correct. Mais faisons attention de ne pas fixer nos regards que sur le petit bout là, à la fin du tape, là, de la corde. Faisons attention à ça. Pourquoi? Que les jeunes ados, les jeunes couples, les retraités, pourquoi ils doivent faire attention à tout ça? Parce que le Québec se meurt spirituellement. Le Québec se meurt spirituellement. Je vous donne un exemple bien, bien, bien facile à comprendre. Noël est à notre porte. Les magasins ont switché de la fête des ténèbres, l'Halloween. Ils ont switché, pouf, décoration de Noël. Les guirlandes, les Pères Noël, les sapins. Et là, les magasins de Noël, là, ça va être les décorations de Noël. Canadian Tire, tous les magasins. La société a passé de la fête des ténèbres à la naissance du Sauveur. Quel contraste! Et pour eux, autant la fête des ténèbres que la fête de la naissance de Jésus, c'est deux fêtes. C'est deux fêtes. Ils ne voient, ils voient rien là-dedans de différence. Aucune pensée spirituelle dans leur vie jusqu'au 25 décembre. Et même le 25 décembre, aucune pensée spirituelle. Ou très peu. Il y a certaines personnes, oui, qui réfléchissent. Donc, c'est à nous à rejoindre ces gens-là. Nous sommes la lumière du monde. Et on doit éclairer ces gens-là qui nous entourent. Je termine avec quelques versets que je vais vous lire. Un rappel pour nos vies chrétiennes de tout ce que je viens de dire. Que sera demain? Avec les quelques années qui nous restent à vivre, ou quelques mois, ou quelques semaines qui nous restent à vivre comme chrétiens ici-bas. On doit être consacré au Seigneur. Faire attention de ne pas focusser notre regard sur la vie présente, mais de faire comme la fourmi. En haut, il y a quelque chose de tellement plus merveilleux. Je vous lis les quelques versets. Romains 6, versets 12 et 13. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme âme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme âme pour la justice. Donc, il faut se consacrer au Seigneur. Romains 12, 1 à 2, un verset qu'on cite souvent. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est faisable. Ce n'est pas au-delà de notre capacité. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je tourne ma page. Hey. Afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11. Autrefois, quand on n'était pas chrétien, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien en commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Et je termine avec 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, « Vous serez saint, car je suis saint. » Et si vous invoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Que c'est beau la vie. C'est beau la vie. Ici. What a wonderful world. C'est très beau. Mais attention. En haut, là, il y a quelque chose. Là. Comme la fourmi que dans son trou, c'était beau son trou. Il y a une belle activité. Elle était occupée, elle travaillait. Puis il y avait de l'interaction avec les autres. Puis c'était correct. Puis, mais elle voulait absolument aller voir dehors, en haut, ce qu'il y avait de merveilleux. Ayons cette attitude-là de la fourmi qui vivait plus pour le monde d'en haut que pour son monde d'en bas. Et c'est le vœu de chacun de nous. Je sais que vous voulez ça. Vous le voulez. Je le veux. Ça prend la sagesse de Dieu. Il faut enlever l'orgueil qui est en nous. Quand on est orgueilleux, il n'y a plus rien qui marche. Plus rien qui marche. Comme Adam et Ève, quand ils sont devenus orgueilleux, il n'y a plus rien qui marche. Comme tous les personnages de l'Ancien Testament qui sont devenus orgueilleux, ça n'a pas marché. Mais soyons humbles dans nos vies. Ça commence par ça, l'humilité. De dire, j'ai peut-être tort dans ma compréhension chrétienne. Je suis peut-être à côté de la traque dans certains domaines de ma vie. Peut-être que je manque de sagesse de Dieu dans ma vie. Donc, il faudrait que je remédie à ça. Il faut que je devienne humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il faut que je devienne humble, puis il faut que je me demande pardon. Puis j'y demande à Dieu, Dieu, donne-moi ta sagesse, dans l'épître de Jacques. Donne-moi ta sagesse, parce que je veux te suivre. Je veux que ma vie soit axée sur les choses d'en haut. Chercher premièrement les choses d'en haut. Seigneur, oui, merci de me faire vivre dans une belle vie, mais Seigneur, décroche-moi de ça au plus vite. Parce que ça m'emprisonne, ce concept-là de que c'est beau la vie, tout ça. Or, Seigneur, fais-moi retomber sur terre, sur mes deux pieds, parce que ton éternité, elle va être terriblement belle. Et que ça puisse déjà me donner un boost pour ce moment-là que je vais passer de la vie à la mort ou l'enlèvement de Jésus-Christ. Un des deux. Je vais prier. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a pu regarder ensemble la réalité de la vie chrétienne et de la vie éternelle. Et Seigneur, merci de nous accompagner, merci de vouloir nous secourir dans tout ça et de nous donner des exemples, les apôtres, les personnages de l'Ancien Testament qui sont revenus à toi, la fourmi qui réfléchissait aux choses d'en haut. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous tourner vers toi. Aide-nous, Seigneur, à réaliser qu'on est une gang d'orgueilleux et qu'on puisse devenir humble. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs. C'est important dans les derniers temps que nous vivons. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs en Haïti qui sont avec nous ce matin. Que pour eux, la vie est loin d'être belle. La vie n'est pas vraiment attrayante comme nous, mais ils ont aussi, eux aussi, leurs difficultés. Seigneur, je te prie pour eux, que tu les aides dans leur vie là-bas en Haïti. Seigneur, prends soin d'eux. Et qu'un jour, on puisse avoir le privilège d'aller les visiter. Aller se fraterniser avec eux, aller se réjouir avec eux. Merci Seigneur pour toutes choses. Amen.